8h46, vendredi thématique sur Europe 1, on parle des réseaux sociaux, si les heures que l'on y passe comptaient pour la retraite, sûr que l'on pourrait envisager de partir à 60 ans, peut-être même plutôt encore. Alors par exemple, votre serviteur, j'ai regardé ce matin, 16 heures de téléphone cette semaine, 6 heures essentiellement sur Twitter, hein, plus du tiers à traquer l'info, les réactions, les commentaires intelligents et stupides, le mensonge, malheureusement aussi a plus de succès que la vérité sur les réseaux sociaux, il faut bien le dire, ça c'est prouvé. Faut-il les fermer ? Question un peu plus que rhétorique ce matin. Bonjour Philippe Val.
Bonjour Dimitri.
Bienvenue sur Europe 1, merci d'être avec nous. Vous venez avec nous parce que dans votre dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu, votre dernier ouvrage, c'est l'un des plus longs articles, réseaux sociaux. C'est un sujet qui vous préoccupe longuement, de manière très importante. Je ferai une des citations, je citerai tout à l'heure votre dictionnaire parce qu'il y a une phrase qui m'a beaucoup intéressé. Nous avons le plaisir aussi d'accueillir Abel Quentin. Il est écrivain, c'est lui qui signait Le Voyant des Tempes aux éditions de l'Observatoire, prix de Flore l'année dernière. Bonjour Abel Quentin.
Bonjour Dimitri.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je précise, vous faites assez peu d'émissions, notamment les émissions littéraires, c'est pas trop votre tasse de thé, j'ai l'impression.
Ah si. C'est justement les émissions non littéraires
que vous fuyez. Alors donc voilà, exception faite pour Europe 1 ce matin, et je vous en remercie. C'est parce que ce sujet des réseaux sociaux vous préoccupe beaucoup, il est au cœur de votre ouvrage. Pas seulement, c'est un sujet... Alors on a dit que c'est un roman anti-woke, parce que c'est l'histoire d'un homme qui a la soixantaine passée, qui est un peu dépassé par... La nouvelle gauche, lui, il a été militant des SOS Racisme dans les années 80, il a du mal à piger ce qui se passe aujourd'hui. Il écrit, je résume très sommairement, il écrit un livre autour d'un poète américain méconnu qui a vécu du côté des Tempes. Et puis, lorsqu'il présente son ouvrage, un militant antiraciste vient le voir et dit « Mais vous avez oublié de dire qu'il était noir. C'est de l'appropriation culturelle. » Et à ce moment-là, va se mettre en place un buzz, un bad buzz autour de cet homme sur les réseaux sociaux. Ça va prendre des proportions absolument gigantesque. Quel est le message que vous voulez faire passer sur les réseaux sociaux, Abel Quentin, à travers ce Voyant des Tempes ?
Ouais, ils n'en sortent pas forcément grandi, c'est sûr, dans mon livre, parce que mon narrateur, Jean Roscoff, il a plusieurs caractéristiques. C'est, comme vous l'aviez dit, un ancien des années SOS Racisme, mais c'est aussi, il le dit lui-même, c'est un dinosaure de l'ère pré-numérique, ou un fossile de l'ère pré-numérique, et donc il se retrouve pris dans le vortex d'une polémique numérique, alors qu'il ne maîtrise pas du tout ce langage-là, ce temps-là ultra rapide, celui de l'immédiateté, celui de la réponse immédiate, pas toujours réfléchie, et donc c'est un monde très cruel que celui des réseaux sociaux. C'est un monde où il est très difficile de peut-être...
Est-ce qu'on peut décrire peut-être la mécanique qui se met en place, c'est-à-dire d'abord une indignation qui se répand comme une traînée de poudre, et puis à ce moment-là un contre-feu de gens qui découvrent la situation. Il y a des proches, ouais, qui tentent de venir au secours de Jean Roscoff. Aïe, 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 parfois c'est catastrophique parce que ces tentatives de soutien s'avèrent finalement desservir, ouais, Jean Roscoff. On retrouve un petit peu tout ce qui se passe. Par exemple, j'ai beaucoup pensé à l'affaire Mila en lisant votre livre d'une certaine manière. Cette jeune femme qui a eu le malheur de dire des gros mots à propos de l'islam et qui, dont la vie est complètement mise sans dessus-dessous depuis quelques années maintenant.
Oui, j'avais aussi au moment de l'écriture en tête une affaire d'une journaliste dont j'ai oublié son nom, mais dont le portable avait été divulgué par ses détracteurs sur les réseaux sociaux et donc qui avait été harcelé, menacé de mort. Et donc oui, c'est vrai que je décris ces phénomènes très viraux qui tout à coup qui sont des bulles comme ça qui se créent de façon très 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 rapide et de façon irrationnelle et avec l'effet désinhibant de l'anonymat qui fait que mon Jean Roscoff, tout le monde lui tape dessus parce que c'est une sorte de silhouette, c'est un exutoire assez commode, mais sans qu'il y ait rien de personnel. Et c'est presque ce qu'il y a de plus horrible, c'est que quand c'est ceux qui l'ont harcelé, certains vont se faire juger à la fin du livre. Et il dit, mais le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y avait même pas de haine, il n'y avait rien de personnel. C'est des, oui, gens qui réglaient quasiment des comptes avec eux-mêmes, oui, et se servaient de lui pour régler des comptes avec eux-mêmes.
Et ça, on l'a vu au procès justement des harceleurs de Mila, des gens qui disaient, mais c'était pour rigoler, enfin, il n'y avait rien. J'avais rien contre elle, je m'en foutais d'elle. Il,
ouais,
fallait participer, c'était drôle, quoi.
Oui, ce qui est dans l'affaire de Mila, très étonnant quand on met cette espèce de nonchalance en regard avec la violence des messages. Donc c'est très très étonnant.
Alors Philippe Val, vous, votre dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu, ça vous intéresse les réseaux sociaux? Vous avez cette phrase, vous dites « Les réseaux sociaux, c'est un détournement de l'usage d'Internet. C'est une machine de guerre et c'est comme si, après avoir inventé la bombe atomique, on s'était empressé de la distribuer à tout le monde sous prétexte qu'il y avait un marché. »
Absolument. Et je pense que la première fois qu'on en a parlé avec Abel, on disait c'est une révolution anthropologique. C'est un changement de paradigme, comme on dit dans le jargon.
Mais alors, pourquoi ? Parce qu'on dit souvent
pourquoi
ça.
Ouais. Parce que depuis pratiquement l'Antiquité, la culture européenne, ce qu'on appelle judéo-grecque, enfin bon, la culture européenne, essaye sans cesse, jusqu'aux droits de l'homme, de rendre l'autre réel. C'est sa force à notre civilisation, en quelque sorte, la réalité de l'autre. Et tout d'un coup, il y a une machine d'une puissance incroyable qui rend l'autre abstrait. Mila, elle est abstraite. Quand les accusés, moi j'ai suivi ça de près bien sûr, disent « Ah bon, on ne savait pas que c'était grave », c'est parce qu'elle n'existe pas. Quand les terroristes, devant une terrasse de café, avec une mitraillette, tue 15 personnes, il tue 15 abstractions. Sinon, il ne le ferait pas. Ils se sont radicalisés sur les réseaux sociaux. C'est une déréalisation de l'autre. Et c'est une catastrophe. Ça menace tout ce qui fait... ça menace les fondements même de notre civilisation, de respect de l'autre et de liberté.
Mais vous avez peut-être entendu tout à l'heure Vincent Trémollet de Villers, notre éditorialiste politique, qui disait « Oui, mais... je suis désolé, mais les réseaux sociaux, c'est aussi l'opinion publique qui retrouve la voix face à l'opinion publiée. » Il citait l'exemple du référendum de 2005 où dans les journaux, on assène qu'il faut absolument dire oui et les gens ne sont pas d'accord. Et finalement, avec les réseaux sociaux, le résultat va peut-être être
différent. Souvent un coup de mensonge, et ce que disait, et c'est souvent un coup de mensonge que ça marche, voire le Brexit. Mais là où je ne suis pas d'accord avec notre ami Trémollet de Villers, c'est qu'en Iran, par exemple, ce qui se passe en ce moment en Iran, c'est sur les failles que le régime n'arrive pas à maîtriser les réseaux sociaux. Donc c'est dans ces failles que ça sert, ouais, les jeunes femmes qui se dévoilent. Tandis qu'en Chine, là où le régime maîtrise parfaitement les réseaux sociaux, ça sert la dictature, les réseaux sociaux.
Oui, c'est un peu ce rôle d'exutoire aussi. Hein.
Ça renforce les dictatures et ça affaiblit les démocraties.
Ouais.
Et ça, c'est un vrai problème. C'est un danger permanent. Dans la vie, comme on en a parlé pour Mila, etc., mais aussi pour la politique. Parce que les fake news, les gens, pour vous, nous, par exemple, les journalistes, ils travaillent dans des structures dont l'argent est complètement pompé par les réseaux sociaux. On ne trouve plus de financement pour faire de l'information. La publicité, aujourd'hui, ça a disparu, tout est pompé par...
Mais est-ce qu'il n'y a pas que les ennemis de la liberté qui veulent fermer les réseaux sociaux, Abel Quentin ?
Moi, je suis d'accord avec Philippe, c'est-à-dire que je pense que les mots catastrophe, les mots changement civilisationnel, changement de paradigme ne sont pas trop forts, enfin, sont des mots adaptés. Je pense, j'ai même lu un article d'un paléontologue qui disait qu'en fait, 2007, l'arrivée du smartphone, pour lui, c'est une date importante dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'il va
changer... l'anthropocène.
De l'anthropocène, c'est ça. Et je suis d'accord avec ce tableau sombre, je le partage totalement. Et il faut faire le bilan. C'est pas parce que la technologie existe qu'elle s'améliore de jour en jour qu'on n'est pas en droit de questionner si elle est un réel progrès. Et pour moi, le bilan, il est négatif. C'est-à-dire, le compte n'y est pas. Et si vous voulez, ce que ça permet, c'est vrai, dans des pays qu'on parlait d'Iran, certes, ça a permis probablement les révolutions arabes, ça permet un certain nombre de choses, mais il faut avoir une analyse coût-bénéfice, comme un économiste, se poser la question de qu'est-ce que ça détruit, qu'est-ce que ça apporte. Aujourd'hui, en Occident, ça détruit, et je ne suis pas du tout sûr que ça permette à l'opinion de s'exprimer, dans la mesure où c'est aussi un déformateur d'opinion, oui, via les algorithmes de suggestion. Et donc, je ne suis pas du tout sûr que ce soit...
On en a parlé tout à l'heure avec le psychologue Michael Stora. Il nous expliquait cette logique de bulle informationnelle dans lesquelles nous enferment les algorithmes, dans le but, évidemment, de nous contenter, afin qu'on reste le plus longtemps possible. Vous citez Albert Camus dans Le Voyant des Tempes, lui qui souhaitait échapper, je cite, « au siècle de la polémique et de l'insulte et à ce monde de silhouettes où on ne voyait pas le regard de celui qu'on insultait ». Phrase qui est d'une contemporanéité absolument incroyable. Finalement, les réseaux sociaux sont les enfants, quelque part, de la société du spectacle, mais qui n'est pas nouvelle. Elle existait, est-ce qu'elle n'existait pas déjà à l'époque de Louis XIV, par exemple ? La société de cour n'était-ce pas déjà une forme de réseau social, si on tire un peu sur la corde ?
Il y a tout un discours qui consiste à dire, finalement, il n'y a pas de brisure, il n'y a pas de changement de paradigme. Il y a un changement de paradigme. Alors c'est sûr que la vanité, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de...
Cette éditorialisation de sa vie, disait Michael Stora.
Voilà, ça a toujours existé, mais là, on lui donne un amplificateur qui est d'une puissance sans précédent.
Alors qu'est-ce qu'on fait ?
Moi, je pense qu'il y a déjà une chose. Les enfants, il ne faut pas qu'ils s'en servent. Pourquoi ? Il n'y a pas d'effacement de mémoire. Quand à 13 ans, on écrit des grosses bêtises sur TikTok, ils peuvent ressortir 30 ans plus tard, quand vous avez un poste de ministre et vous êtes mort au bout de deux jours parce que ça fera la une du monde. Donc stop, pas les enfants. Tant qu'on ne sait pas réguler ce truc-là, pas les enfants. 18 ans, il faut arrêter. Ensuite, je pense que moi j'étais directeur de publication, j'étais 20 fois devant la 17e chambre correctionnelle de Paris, et parce que j'étais responsable du contenu de mon journal, y compris du courrier des lecteurs. Eux ne sont pas responsables. Il faut un responsable national par pays, un responsable national qui soit directeur de publication, responsable devant les tribunaux des propos publiés sur les réseaux sociaux. Pourquoi échappe-t-il à la loi alors que personne en France, ni en Europe d'ailleurs, n'échappe à cette loi ? Il n'y a que les propriétaires des réseaux sociaux.
Un journal avec 66 millions de journalistes, ce serait ça, le patron de Facebook France.
Qui se débrouille. Il faut qu'il soit. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas responsable pénalement.
Merci Philippe Val. Je renvoie à votre dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu paru il y a quelques mois. Merci à Belcantin d'être venu nous voir, votre voyant des tempes aux éditions de l'Observatoire, prix de Flore l'année dernière. Tiens, j'en connais un qui était dans le jury du prix de Flore l'an dernier.
Je suis toujours dans le jury parce qu'il n'a pas bougé et j'avais voté pour Abel Quentin. Normalement, il ne faut pas le dire, mais je le dis parce qu'il est là. C'est les pédales, j'aurais rien dit. Non, il le sait en plus. On lui a déjà dit, puisque c'est prix de Flore, c'est extrêmement communicatif. Il y a une grande fête après, donc je lui avais dit.
Bon, il était dans les listes, les shortlists d'à peu près tous les prix l'an dernier.
Bon, les shortlists, vous savez, il y a beaucoup de prix où les jurés ne lisent pas les livres. Ça ne veut pas toujours dire grand-chose, les listes.
Contrairement à Philippe Vandel qui lit toujours
tout. Contrairement aux gens du Flore. Alors,